Ceci nous a mené au thème de l'évolutionnisme. J'en ai parlé en 10 minutes, ce qui est vraiment interdit pour un sujet pareil, comme ils en parlent en 10 heures. Alors je vais laisser ça pour la fin du cours ce matin. Je reprendrai simplement l'idée de base. Je vais accrocher au verset que vous citez à propos de la paracha de Noah dans le premier cours. Les animaux puent. Betavehema Asher Enena Teora, et la bête qui n'est pas pue est de la Gemara, mais en évidence, c'est beaucoup plus fouillé dans la Kabbalah, mais déjà la Gemara met en évidence que c'est une indication qu'il s'agit d'espèces qui sont devenues impures. C'est clair? Ce que nous avons impures. Que, a priori, bien sûr, le projet de l'être vivant dont le véhicule est corporel, mais ça veut dire que c'est de la terre modifiée. C'est la terre qui est vivante, Adama, elle. Et je reviens encore moi, je vais un petit peu d'un des versets que je vais citer. Vous avez pu remarquer le premier verset que je vais donner, qui est le projet pour le sixième jour, c'est l'être vivant organisé. Okay. J'emploie tout de suite un vocabulaire contemporain. Hein. L'être vivant organisé, le projet, c'est que la terre sorte d'elle-même, la personne vivante. En fait, que la terre sorte, totse, fasse sortir, nefeshkaya. Et donc, tout se passe comme si le premier projet, tel qu'il est formulé, c'est le projet que décrivait l'évolutionnisme. Que de la terre sorte, en fin de compte, la personne vivante. Et puis, la terre n'est pas arrivée à faire sortir d'elle-même la personne vivante. Alors, dernier verset que je vais donner à lui. Alors, Dieu dit, puisque elle n'arrive pas à le faire, je vais le faire moi-même. Vous voyez ce qui se passe là? Vous avez bien compris cette. Que la terre n'est arrivée à sortir qu'une approximation de la personne vivante. Et il faut donc intervention du Créateur à la fin des 6 jours pour que le corps humain soit préparé. Parce que la terre n'arrive à faire sortir d'elle-même qu'un corps d'animal le plus évolué. Quand elle compte, le texte de la Genèse appellera le nahash, le serpent, okay, qu'on traduit par serpent. Mais si vous avez déjà un peu exploré le texte, vous verrez qu'après la catastrophe du paradis, la punition du serpent, c'est qu'il perd ses bras et ses mains, et qu'il devient, donc c'est un crocodile. Vous voyez ce que je dis, une sorte de caïman quelconque. Bon, alors peu importe que les savants de l'évolutionnisme arriveront à établir de quel lémurien il s'agit. Okay. Mais il ne s'agit pas d'ancêtre de l'homme. Il s'agit de l'animal le plus évolué. Et qui a une morphologie analogue à celle qui sera le point de départ de la morphologie du corps humain. Et ce nachash là, on va avoir des surprises avec lui dans le Midrash. Le Midrash va nous dire que ce nachash est prophète, est capable d'être prophète. Dieu lui parle. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte. À nous, il ne nous parle plus, mais le nachash, il parlait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il est capable de penser, il est capable de cette approximation à l'homme, à ce que sera l'homme. Vous vous rappelez de cette image? De la tâche, c'est ce point d'asymptote au projet de Adam. C'est pas comme si le projet du sixième jour, c'est que la terre sorte d'elle-même ce qui serait le véhicule de l'identité Adam. Okay? Oui, mais est arrivée à sortir d'elle-même qu'un golem. Je m'explique. La différence entre le nachash et la dame, c'est la neshama. Hein. Le nachash n'avait pas un goût suffisamment propre à être le véhicule de la neshama, mais il possédait la pensée, la parole, et beaucoup d'autres attributs de ce qui pourrait être ce que j'appelle l'approximation de l'identité humaine. Hein. C'est-à-dire, il est l'être de nature le plus évolué selon les critères de l'explication évolutionnelle. Okay. Mais c'est pas l'homme. Et l'histoire de l'homme commence dans cette courbe-là. Et ici, il y a une espèce de relais. Là, c'est la scène devant la fin de l'année, où le nahash et l'homme se parlent, le nahash séduit la femme, et finalement, arrive cette catastrophe du péché originel. Okay? Mais ça, nous verrons la fin de l'année. Ce que je vais expliquer pour notre sujet, c'est que l'Institut de même l'Université de la Torah montre cela. Quand en principe, a priori, la terre comme matière vivante, et elle reste la source de notre existence corporelle à travers la nourriture. Finalement, nous mangeons de la terre transformée par le ciel, par le soleil. Okay? La terre transformée par la lumière du soleil, c'est en fait comme ça notre nourriture. Remarquez ça, comment on explique. Et très élaboré, à la suite de tous les cycles qui font que ce qu'il y a de vivant dans la lama devient finalement le fruit consommable, mangeable. Nous pouvons voir cela qu'il y a l'identité de l'être de la nature. Et c'est, je vous en parle un moment de golem. Un golem, c'est-à-dire un être vivant à corps humain, mais qui n'a envie que les fonctions de l'homme au niveau être de nature. Tant la pensée que la parole, une pensée où il n'y a rien que de l'impersonnel, une parole où il n'y a rien que de l'impersonnel, une vie intérieure où il n'y a rien que de l'impersonnel, c'est un homme complet, sauf l'essentiel d'un échama. C'est ça qui s'appelle golem. Le postulat sur l'enseignement de la Torah, c'est que tous les êtres vivants à apparence humaine qui vivent sur la planète sont des hommes et non pas les descendants du Mahach. Les descendants du Mahach, c'est toutes ces espèces involuées à partir de ce lémurien qui aurait pu peut-être être, mais qui n'a pas pu. Vous voyez que toutes ces espèces de serpents. Mais il faudra qu'on reprenne ce vocabulaire. Ce qui m'a frappé lorsque j'ai étudié ça en technologie, c'est le nombre de sociétés dites primitives qui se retrouvent dans les crocodiles comme ancêtres totémiques. Et en particulier l'Égypte, dont le symbole de la sagesse en Égypte, c'était le chef, le serpent en sacré. Oui. Mais à quoi je peux faire allusion? Encore une fois, je voudrais bien que ce soit clair, tous les êtres vivants sur la planète qui ont l'apparence humaine sont des hommes et non pas des descendants de ce Nahash. Quelle est la thèse de l'évolution? C'est que nous sommes des évolutionnistes, c'est que nous serions tous descendants de ce Nahash, il n'y aurait pas d'hommes sur terre. Et quand on le rencontre, et c'est tellement bizarre qu'on en fait un dieu. Vous voyez, j'ai fait un échec. Imaginez le choc d'un nahash rencontrant un homme. Résultat, mais c'est un dieu, vous voyez à peu près. Tout à l'heure, en fin de cours, si nous avons le temps, nous reprendrons ces animaux avec les versets. Je crois que c'est à partir du verset 24, okay, si vous voulez. Donc le verset 24 et le verset 20. Donc Dieu dit, Narasé Adam. La terre n'arrive pas à vivre avec le travail. Alors je dis, laissez-moi. C'est-à-dire, le corps humain est différent de nature de quelque corps animal que ce soit, bien qu'il y ait dans toute cette zone asymptotique, si j'ose dire, une analogie totale entre le niveau où est arrivé le corps animal par développement naturel et le niveau d'où part le corps humain. Et c'est pourquoi ce que j'ai fait, c'est ici. On n'a jamais vu, et on ne le verra jamais, en tout cas on ne voit pas, un animal devenir homme, mais on voit des hommes redevenir golems. Okay? Mais ils restent hommes. Et c'est ça le drame. S'ils devenaient animal, eh bien on pouvait laisser tout de suite où il y a présence de Neshama, conscience morale, identité du Inyama Eloki, etc., où il n'y a pas, hein, comme le garde l'apparence humaine. Alors on s'en fait compte, on sait plus de quoi on parle. Hein. J'ai entendu que je n'ai pas traduit golem. Golem, ça veut dire, je vais essayer de vous donner la seule analogie que j'ai pu étudier à ce sujet, c'est un somnambule. Mais un somnambule, il fonctionne comme un homme absolument. Et il peut même, le cas échéant, avoir les yeux ouverts et parler. Hein. Mais la Neshama n'est plus là-dedans, un golem. J'ai eu à m'occuper de gens qui sont dans des hôpitaux, qui sont arrivés à un degré grave de paranoïa. Eh bien, on a une expression là, c'est devenir golem. C'est-à-dire, il fonctionne comme un homme, mais la Neshama est disparue. Et qu'est-ce que c'est la Neshama? En fait, elle est loin. Et qu'est-ce que c'est la Neshama? C'est finalement la présence d'un principe qui n'est pas terrien, qui n'est pas terrestre dans le sens de être de nature dont je vous parle habituellement. Okay? Faites attention, quand je vous dis que c'est pas terrien, ça ne veut pas dire que je pense à des grains de planète. On appelle Sandy appelle ça, les astronautes, on va dire les extraterrestres. Je veux dire que c'est une identité qui se exprime dans le visage humain, qui n'est pas de l'ordre de l'être de nature. Hein. Et alors, la question que je cherche pas, c'est ça. C'est que même dans ce degré ultime de la paranoïa, avant la désintégration de la personnalité, les forces de l'intelligence, même parfois, sont décuplées. Ça fonctionne avec une espèce d'acuité terrible. On sent que c'est l'intelligence impersonnelle du travail, la présence de la Neshama n'est plus là. Vous comprenez ce que je dis? Le quelqu'un de responsable n'est plus là. Et c'est terrifiant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que énormément de gens fonctionnent comme des golems, mais ils ne sont pas bons. Vous voyez qu'ils sont agis par l'être de nature et ils sont en train une conversation dans l'autobus n'importe où. Et quand on commence à parler des recettes de cuisine, du goût du fromage, de la pluie du beau temps, comme on dit, vous voyez. Et alors, vous savez, toutes ces conversations, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ce personnage et de quoi il parle, okay? Uniquement du fonctionnement de l'être de la vie. Oui. Ils fonctionnent comme des bêtes, mais ils ne le savent pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a quelque chose qui disparaît. C'est-à-dire la présence de la méchante. Alors ceci à tous les niveaux, chacun est à un degré. Mais le postulat de la Torah, c'est que tous les Bnei Adam sont des Bnei Adam. Et le fait de traiter quelqu'un de Nahash, c'est une insulte. Une insulte, c'est-à-dire tu es comme si tu étais un arabe. Vous avez compris un peu plus, okay. Par exemple, le Midrash dira que Esav est né avec un arabe tatoué sur la hanche. Son symbole, c'est le arabe. Et lui, on trouve un verset dans les bénédictions à Jacob, qui l'a arabe béach, donc il n'y a pas de arabe dans Jacob. Bon, ça suffit pour ce point. Pour le moment, je reviens donc à la première voie de distinction des espèces. On est arrivé à un parallèle qui me semble assez important avec mon histoire, c'est ceci. Les lois de la Kashrout, je vous avais dit dans le premier cours, il y a un niveau, une base de lois de la Kashrout qui, selon la Torah, sont imposées aux goyim eux-mêmes. Hein, vous rappelez? Mais les lois de la Kashrout vont être de plus en plus différenciées, enfin pas différenciées, de plus en plus précises. Suivant qu'on est à un niveau de sainteté de plus en plus grand. Le principe est le suivant. Plus on est susceptible de capacité de sainteté, plus on est susceptible de capacité d'impureté. La raison pour laquelle les lois de distinction entre le pur et l'impur s'affinent de plus en plus au moment où on monte de niveau de kedusha. Seul quelqu'un qui est capable d'être kadosh peut être tamou. Celui qui ne peut pas être kadosh, le concept de pur et impur ne va pas trouver. Vous avez une toute petite indication, si vous faites de la biologie, vous apercevez que les blessures, les plaies de l'animal sont de plus en plus toxiques suivant le degré d'évolution de l'espèce. Toxiques pour l'homme. Toxiques pour une espèce supérieure. la plaie d'une plante, comme casser une plante. La plaie est quelque chose de propre encore. Hein? Marquez ça. Et là, vous avez un animal un peu plus évolué, un écrevisse. Vous cassez une patte, ça reste propre. Hein? Vous commencez avec un animal plus évolué, alors ça commence à devenir. Parce que c'est plus évolué, ça pourrit plus. Vous comprenez le principe. Et donc nous verrons, et vous étudierez, qu'il y a des règles de cache-coute générales pour toute l'année, mais voilà, après ça, la cache-coute devient plus que bien. C'est dans l'ordre d'une cache-coute de plus haute sainteté. La commémoration de Pessah se fait dans une cache-coute de plus haute sainteté. Et d'une façon générale, les Kohanim étaient soumis à des règles de pureté beaucoup plus strictes que l'ensemble d'Israël. Il y a des lois de la pureté et de l'impureté plus strictes que nous, les Kohanim. La cache-coute totale, c'est la cache-coute de Pessah. Et alors, tout se passe comme si le reste de l'année, on descend d'un cran dans le niveau de Kedusha. Donc, les lois, indépendamment de sens de symbole historique, si je veux, se charge dans le problème de la nourriture. Bien. Voilà le point que je voulais mettre en évidence, c'est que pour Israël, qui doit préserver en lui l'identité indifférenciée, tout ce qui est différencié est interdit à la nourriture. Vous voyez bien ? Tout ce qui est arrivé à l'impasse de différenciation, de spécialisation. Je vais vous donner le principe. Chaque être vivant est un exemplaire précis, un type particulier, avec équation personnelle bien précise d'un nefesh. Tout ce qui est devenu nefesh est interdit. Et nous verrons que ça joue en particulier pour la deuxième grande loi de l'interdiction du sang. La spécificité de l'autre manière d'être vivant que moi m'est interdit. Ce qui en lui est encore indifférencié, je peux l'intégrer en moi. Mais ce que lui est devenu, c'est ça l'impossible pour moi. Est-ce que c'est clair? Nous verrons plus tard en quoi toutes ces lois, c'est la première mesure qu'on est en train d'étudier, parce qu'on aura un échantillonnage, et nous verrons que tout cela, c'est au fond l'application du principe du monothéisme à la conduite de l'être vivant. Ça paraît d'abord dans ce principe de distinction, de telle sorte d'arriver à l'authenticité, à la pureté de chacun. Le mélange est interdit. Dans la mentalité monothéiste, l'idée de mélange est le pire des blasphèmes. Vous verrez là, non, je vous parle du psychisme, hein, le mélange de choses devenues différentes. Hein. C'est le désordre dans l'ordre de la chasse. On ne mélange pas les torchons et les charrettes. Et ça va jusqu'au lien et la viande. Et c'est très frappant. J'essaierai de trouver cela dans mes archives. Mais il y a quelques années, il y avait un conseiller culturel français en Israël qui était un culturaliste, qui s'appelle Soler. Jean Soler, pas Philippe Soler. Il était d'ailleurs pas du tout de mon époque, certainement beaucoup plus jeune que moi, aussi un élève de Lévi-Strauss, mais il est un petit. Et il a étudié ce problème des lois alimentaires dans les sociétés, comme il était conseiller culturel en Israël. Alors il a consacré un long temps de sa vie à étudier la cache-coute du point de vue structuraliste. Non, mais très bien étudiant. Et puis. Il m'a invité, je me rappelle, il a fait une conférence à l'université de Tel Aviv là-dessus. C'était extrêmement brillant d'ailleurs. Tous les détails étaient faux de la manière dont il citait les détails de la cache-coute parce qu'il ne les connaît pas, simplement. Mais la thèse était extrêmement brillante. J'en avais sur le point de le citer. Et il m'a demandé d'ailleurs de faire une contre-conférence d'un point de vue traditionnel. Alors j'ai commencé tout simplement l'introduction et puis l'assemblée a tout de suite compris que c'était la première fois que j'avais le privilège de le considérer comme un héros d'une scène que mon premier professeur d'anthropologie m'avait raconté, qui était la suivante. Il y a un explorateur qui arrive dans une société primitive. Imaginez, vous connaissez les méthodes des explorateurs, ils achètent des poteries, des petits bijoux, des petits ballons, comme ça, pour amuser les indiens. Et puis alors, ils réunissent autour du feu de camp, et après la palabre, on le présente. Alors, il se présente avec beaucoup de précautions, en expliquant que c'est un homme étranger venu au-delà de la mer, et pour s'intéresser à la grande civilisation des Caraïbes, vous voyez ce que je veux dire. Alors, une fois qu'il a fini son discours, un des chefs indigènes, habillé d'un pagne, se lève et il dit dans un anglais impeccable, accent Oxford c'est bien en Angleterre, et il dit en d'autres termes, vous êtes un anthropologiste. Ça veut dire que c'était le chef d'attribut qui avait fait un stage à Oxford. Alors, c'est la question de cette histoire, tout le monde s'est marré, c'est-à-dire, voilà, je vais reprendre votre exposé pour vous donner quelques renseignements sur ce qu'il y a vraiment dans le détail. Mais au fond, vous m'avez fait vivre cette scène en d'autres termes, vous êtes un ethnologue. Vous êtes venu étudier une société primitive qui s'appelle Israël. Est-ce que je peux dire ça? Je n'ai pas compris. Mais ce qu'il y avait d'important dans son exposé, j'aimerais bien retrouver le texte, mais si je ne peux pas ici ouvrir la même chose, il ne faut pas se rappeler qu'il me manque ça dans les machins. Juste après le soleil. Il dit ceci, ce qui l'a frappé, c'est cela. C'est que le christianisme, simultanément, a levé les interdits alimentaires et la différence des substances. Entre la substance divine et la substance humaine, entre l'homme et la femme, entre le juif et le boy, entre le juif et le grec, etc. Il a très bien montré ça. En montrant que l'évangile, par rapport à la Torah, c'est la suppression du monothéisme. Que les règles du monothéisme aboutissent à la cache-croûte et surtout à ce principe très important de la séparation de ces différents, chacun devant être à sa place, et il y a une unité de l'ensemble, et que finalement la confusion qui se trouve dans le mythe de la Trinité, que 3 c'est 1, que 1 c'est 3, etc., que 1 c'est l'autre, vous voyez, cette confusion-là, elle est établie dans les mêmes textes, dans l'enseignement de Saint Paul, que Dieu c'est l'homme, que l'homme c'est Dieu, que l'homme c'est la femme, que la femme c'est l'homme, que le Dieu c'est un grec, que le grec c'est un juif, vous voyez, dans les mêmes textes. Que simultanément, on va dire, les mélanges sont permis, plus de lois de la cache-coute, et il n'y a plus de différence entre juif et goy, entre homme et femme. Il est très bien montré. Alors, d'autre part, comme c'est un chrétien fervent, je ne sais pas si vous rendez compte un peu de la schizophrénie de l'université américaine, c'est un catholique fervent, et en tant que structuraliste, il nous démontre tranquillement que le christianisme, c'est la suppression du monothéisme, il continue à aller à la mer. Oui, dans le monde. Effectivement, il y a un texte célèbre de Saint Paul qui dit qu'il met fin au droit de la cache-croûte, enfin pour les chrétiens, en disant maintenant tout est permis, et il n'y a plus de distinction des espèces. Il n'y a plus de distinction des espèces dans le même contexte que Dieu s'est fait homme, il n'y a plus de différence entre Israël et les Grecs, ça sera le test, ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Chaque fois que je discute avec eux, je me pose des questions sur le problème du mariage, du célibat, etc. Alors je cite ce test, en disant, tant qu'il y a des juifs, tant qu'il y a des hommes et des femmes, il y a des juifs et des grecs. Le verset est le sujet, dit ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Tant qu'il y a des hommes et des femmes, il y a des juifs et des grecs. Bien. Alors c'est extrêmement frappant de voir là que la suspension des mitzvot, c'est au fond la suspension du principe du monothéisme. C'est la séparation des choses. Bien. Bon, c'est une idée pas simple, que je viens simplement d'explorer, mais que je me reprends. Alors je prends d'abord pour la première grande loi la distinction, la définition morphologique des espèces et des espèces interdites. Alors on dira comme cela. En principe, la plupart des espèces vivantes sont interdites. Sauf les espèces suivantes. C'est les autres critères morphologiques. Si vous voulez, d'une certaine manière, mais ça, on est à tout autre niveau. La véritable cache-route, ce serait de ne plus manger de nourriture terrestre, de pouvoir se nourrir directement de la lumière du soleil. Et il y a une époque privilégiée dans l'histoire d'Israël, nous avons des indications de cela. C'est l'époque de la sortie. Pendant 40 ans de l'hiver, les Hébreux se nourrissaient de la manne, qui est appelée le pain du ciel. Et la manne était une substance qui très probablement résultait de la condensation dans l'atmosphère d'hydrate de l'arbre. Puisqu'en fin de compte, la Torah dit que le goût de la manne, c'est le goût du miel. La Gemara précise, le goût du miel est le 60e du goût de la manne. Et la manne était donc une nourriture de base qui pouvait prendre le goût de n'importe quel aliment retrouvé dans la mémoire. C'est ce que je dis. Je vous ai parlé une fois de la madeleine de Proust. Alors, vous voyez que c'était le temps de la suppression du problème économique. La Gemara explique ça très bien. Il y a eu pendant 40 ans, les Hébreux ont été en parenthèse d'histoire terrestre. Ils mangeaient le pain du ciel, ça veut dire la manne, c'était quoi? Probablement là. Vous savez, quand il y a des comètes qui traversent l'atmosphère, il y a une queue de la comète qui. Qui était très longue, énorme, hein, et puis qui en principe est faite de gaz. Vous savez cela. Et lorsque ces gaz sont entraînés par la comète, entrent dans l'atmosphère terrestre, alors ils s'illuminent. C'est pourquoi on voit. Il est fort possible qu'il y ait des phénomènes aériens, des bouleversements de ce genre, des époques de révélation. Un phénomène, je ne rentre pas dans les détails, mais qui a fait que il y a eu dans l'atmosphère terrestre une condensation d'hydrate de carbone. Et la chose extraordinaire, c'est que le rythme de la création est repris là, 6 jours de la 7e. La main ne tombait pas le 7e jour, elle tombait 2 fois le 6e, double le 6e. On étudiera ce jour. Et alors, il y a une trace dans les traditions anciennes des autres traditions. Que lorsqu'on parle du nectar, de l'ambroisie, de la nourriture des dieux, c'est la manne. Et les cultes des anciennes traditions ont gardé cela. Symboliquement, le kidouche chez les druides, c'est avec du romel, c'est-à-dire avec une liqueur de miel. On trouve ça dans les enseignements de Rabbi Aspélis. Et non, je ne veux pas, il va exister un Rabbi Aspélis. Comme il a existé aux Anglais grecs, un Rabbi Alexandre. Et nous avons un de Tostos qui s'appelait Rabbi Aspélis. C'est un de ses enseignements principaux. C'est qui pense que c'est la fin. C'est l'enseigné que les ont tous les Romains. Il a expliqué que. Pourquoi non, c'est pas des blagues. Il a expliqué pourquoi justement dans cette rivalité entre Rome et Jérusalem, finalement, que Rome s'est prétendu être Israël, et il conclut en disant « Ebnachoulaï, les Romains, ils sont tous les Romains, ils se disent pas d'Israël. » La vie astérique, on peut faire toute une... à propos de Pourim, je ne prendrai que un des rites de Pourim, c'est ce qu'on appelle Daf Pourim. On étudie une page de Gemara qui n'existe pas sur les thèmes de Pourim. Si j'ai le temps, je vous en prépare une. Enfin, une Gemara qui n'existe pas et puis on l'étudie. Alors ça commence par la Biastérix au même. Bien. Et c'est une révolte assez, comment dire, assez incompréhensible à première vue. Ils ont la manne, et elle a cette prérogative, vous rappelez le problème de la Madeleine de Proust, il suffit de se rappeler d'une sensation pour la revivre de nouveau. Et c'est une sensation nouvelle. Si je me rappelle intellectuellement du goût de la banane, je n'éprouve pas la sensation du goût de la banane. Mais si je rappelle affectivement le goût de la banane, c'est ce qu'on appelle le problème de la mémoire affective, alors j'ai de nouveau une sensation nouvelle qui consiste pour moi à rééprouver le goût de la banane. Donc, il aurait suffi que d'avoir les impressions de jouissance de tous les sens une fois dans sa vie pour pouvoir les capitaliser pour la vie tout entière. Et la mémoire affective supprimerait le problème économique. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a des états d'extase sur les chassidim où on arrive à s'enivrer avec un verre d'eau. Mais à s'enivrer vraiment, enfin pas le grossier de l'ivresse, mais de l'exaltation. C'est la raison peut-être pour laquelle ils préfèrent la vodka, qui est une couleur incolore, on ne voit pas que c'est de l'eau. Bon, ça me rappelle une histoire juive qu'on racontait, anti-chassidique qu'on racontait dans les yeshivas de Lituanie. Les Lituaniens n'aimaient pas beaucoup les chassidiques. Alors ils se posaient des questions de ce genre. Et tu sais pourquoi quand deux chassidiques se rencontrent, ils trinquent avec la vodka? Alors la réponse officielle, c'est pour pouvoir dire une bracha. Alors, objection, on peut dire la même bracha avec un verre d'eau. C'est à cause qu'il y a du vin. Que ce soit de la vodka ou de l'eau, on dit la même bracha. Alors la réponse, c'est que si déjà il veut dire une bracha, imagine un verre de vodka. Ah, c'est le plus bon juif. Vous savez pourquoi quand vous prenez un verre de thé, vous prenez le sucre avec une cuillère. Qu'est-ce qui suit ? La cuillère dessus. Bien sûr, la cuillère. Et alors pourquoi vous voulez mettre ce sucre ? Pour savoir combien de temps il faut tourner. Et à ce moment-là, la révolte est formulée de la manière suivante. Les épreuves de Moïse, et disent nous voulons de la viande parce que nous nous souvenons des poissons, et des concombres, et des pastèques, et des oignons qu'on mangeait en Égypte, donne-nous de la viande. Quel rapport ? On se souvient des poissons et des concombres, donne-nous de la viande. Le Baal Shem Tov a expliqué, et il y a des problèmes grammaticaux dans le verset, donc un traducteur ne se sort. Zahar nous est à Daga. Nous nous sommes souvenus de Daga, c'est Dag, mais pourquoi ils ont dit ça au familial ? J'aurais pu dire Zahar nous est à Dagim, ou est à Dag, Daga. Bon, il y a en hébreu le substantif collectif, il ne se trouve pas pour ce terme en français, il faudrait dire l'agent poissonnière. Vous voyez, de la poissonnerie, d'ailleurs. Vacher Nochal de Mitzrayim. Et Nochal, c'est un futur. Il devrait dire Vacher Achal. Nous nous souvenons du poisson que nous mangerons en Égypte. Déjà, il prévoit qu'il va retourner en Égypte. Oui, c'est bien plus difficile. Mais malgré tout, la difficulté principale, c'est je me souviens du poisson, donne-moi de la viande. Quel rapport. Alors, le Baal Shem a expliqué comme ça. Lorsque les Hébreux ont reçu, dans cette étude de 40, pendant 40 ans dans le désert, la révélation de la Torah, ils ont reçu les lois de la cachouille. Or, ils mangeaient la manne. Et ils ne pouvaient se souvenir que de nourriture qui pouvait être cachère. Donc, une chose, vous comprenez ? Puisque en Égypte, ils pouvaient manger du poisson, des concombres, des pastèques, ça c'est cachère. Donc, ils ne pouvaient se souvenir que de la nourriture cachère qu'ils mangeaient. Et alors, il n'avait donc aucune possibilité d'avoir le goût de la viande cachée. Et alors, il voulait avoir de la viande pour avoir une fois le goût de la viande, pour pouvoir avoir le goût de la viande cachée. Et la racine. Ça, c'est l'explication gentille. Et très certainement, c'est le chat même. C'est vraiment la réalité. Parce que qu'est-ce que là ? Par deux fois, la Torah nous raconte ça, qu'il y a une révolte pour avoir le goût de la viande. T'as compris un peu la réponse à ta question. C'est très profond comme explication. Bien. Alors, je reviens en tout cas au problème de cette première loi. sur les mammifères, les signes, ce qu'il faut oublier, le cerveau fendu et la fonction de rumination. Les ruminants ayant le cerveau fendu. Toutes les autres espèces animales, quelles qu'elles soient, sont interdites au niveau des mammifères.
Et pourquoi
le cerveau fendu ? Donc, je vous l'ai dit, ce sont les deux critères qui indiquent morphologiquement les espèces indifférenciées. Et on a l'habitude d'ajouter corollairement qu'on est assuré que les mammifères ayant le sabot fendu et les ruminants sont des herbivores purs. La forme du sabot, fonctionnellement, étant la forme nécessaire pour fixer la touffe de végétal, et il n'y a que les herbivores qui sont des ruminants. Ça veut dire un herbivore évident doit avoir ces deux critères. Des espèces, dans leur évolution approximative aberrante, disons, peuvent avoir ou l'un ou l'autre des critères, mais ce ne sont pas purement des herbivores. Alors, il faut les deux critères pour être sûr que ce sont des herbivores. C'est clair ? D'autre part, chez les poissons, et tout ce qui vient de la mer, uniquement les espèces de poissons qui ont les deux critères suivants, avoir des nageoires et des écailles. S'il y a des nageoires et des écailles, alors c'est une espèce perdue. Tout ce qui n'a ou pas de nageoires ou pas d'écailles, les intéresse. Chez les oiseaux, tous les oiseaux sont permis, sauf tous les rapaces et tous les oiseaux nocturnes. Plus certaines espèces ont midi que la Torah donne normalement. Vous notez, okay. Donc mammifères, ruminants ayant le cerveau fendu, les poissons, il faut qu'il y ait écailles et nageoires. Par exemple, le caviar n'est pas caché parce que c'est des œufs de sturgeon et que le sturgeon est un poisson sans écailles. Le caviar, donc, il y a enfin les
caviar.
Oui, ça c'est des œufs. Bon, il faut vérifier quelle est en général, la loi en France impose la mettre les œufs de voix. Okay. Alors, si c'est les œufs, oui, ça c'est caché. Les œufs de lait ou deux œufs. Il y a une espèce de faux caviar de saumon. Okay. Bien. Alors, vous voyez, toutes les espèces animales qui n'ont pas. Le critère évident de cette morphologie, qui sont censés être, suivant les critères de la vie, des espèces aberrantes du point de vue de l'évolution de la vie. Et donc, ça implique, je vous ajoute ça tout de suite, ça implique qu'il y a eu un temps de l'histoire de notre monde où il y avait une plasticité morphologique des espèces vivantes. C'est tout le temps qu'il y a entre Adam Arichon et Noir. Tout ce que les fossiles viennent de ce temps-là. Nous apprendrons dans les textes que l'une des causes du problème, c'est que les espèces se croisaient entre elles. Il en résultait autant d'espèces hybrides dont le résultat c'est le fossile. Qui frite qu'on arrête cette barque. L'expression que vous envoyez là, ça veut dire que vous savez tout ce principe de l'interdiction et du mélange des espèces différentes. Par exemple, on verra que ce matin, je vois de la cache-route, tu vois apparemment qu'il y a rien à voir avec la nourriture. Il est interdit d'avoir un vêtement qui soit tissé ensemble de lin et de laine végétale animale. Bon, il y a aussi des raisons proprement liturgiques. C'était l'habit des prêtres de l'idolâtrie était tissé de laine et de lin à la fois. Dans cette interdiction du mélange du lin et de la laine, et il y a le même principe au niveau de l'habillement.
Puisque ces élévations étaient l'expression même, dans toute sa puissance, de l'indifférenciation, pourquoi est-ce...
Pas de l'indifférenciation, vous mélangez deux concepts, du mélange. Le mélange de choses devenues... Je vais essayer de vous expliquer ça en français, ce que j'entendais par méfait, ce qui est déjà devenu spécifique. Il y a deux manières d'être, vous l'apprendrez en hébreu par la suite. L'être en devenir et l'être devenu. L'être devenu est amené. Tout ce qui est déjà devenu est de l'ordre du déchet, et de l'ordre de l'excrément. Vous êtes ensemble. Alors les choses sont devenues quelque chose. Le mélange est intervenu. Par exemple, la viande s'est cachée. Le lait s'est caché. Le mélange des deux est intervenu. Oui. Et alors, là j'entends bien ta question. C'est un concept différent que la différenciation. La différenciation, c'est le non encore différencié. Tandis que le mélange, c'est le mélange de deux réalités déjà différenciées. Vous comprenez? Tarobé. Tarobé, c'est le mélange des deux. Vous apprendrez cela. D'accord, une horreur du mélange. De ce qui est mélange. Je me rappelle encore de cet article de Soler, où il a très très bien montré cela. C'est à cela que le christianisme a voulu mettre fin, la différenciation des espèces. Nous devons avoir pensé. Alors je continue. Pour les insectes, tous les insectes sont interdits. Les insectes sont considérés comme un des signes de l'être vivant devenu absolument immature. Oh là, je pourrais vous parler pendant des heures parce que j'ai étudié cela en particulier. Le symbole de l'impureté, c'est la chèvette d'insecte. C'est l'être vivant où la vie a été prise au piège de l'instinct de façon absolue. Là, je vous parle en termes bergsoniens. Surtout le vocabulaire que j'ai appris au moment où je faisais des études. Il y a derrière le vocabulaire de Spencer, mais c'est surtout le vocabulaire de personne, comme il disait en France, en fait, parce qu'en fait, il est très poétique. Voilà l'image qu'on voit Bergson, le courant de vie qui traverse les corps comme véhicule de la vie et les modifie et les affine. Pour passer d'espèce en espèce, eh bien, ce courant de vie a été pris au piège de l'instinct dans les sociétés d'insectes. Le mot de société, vous mettez dans ce livre, quelque chose qui ressemble à une société, mais c'est l'impersonnel absolu. La monstruosité de l'impersonnel chez l'animal, on le trouve chez l'insecte, surtout. Pourquoi l'insecte est le symbole de la pureté dans tous les textes? On pourrait dire de quelqu'un qui est vraiment. Pur, kadosh, le signe qu'on a dans les textes, à propos, on l'a enseigné à propos de Elisha, Élisée, le prophète Élie, qui était le disciple d'Élie Abad Nabi, que le texte, en racontant son genre de vie, dit que jamais une mouche ne venait là à l'endroit où il mangeait. Il y avait, on n'a jamais trouvé de mouche là où il était. Ça veut dire qu'il était d'une sainteté absolue. Il n'y a pas de. Cette impureté de la face de la vie. Je veux dire, et la personne d'entre les expliqués, l'élan vital s'est trouvé pris au piège des mécanismes qu'il se fabrique comme véhicule à l'échelle individuelle. Okay. C'est-à-dire, le comportement instinctif corporel a complètement englué, assassiné, enterré l'élan vital. Et alors, lorsqu'on étudie la vie des insectes, on s'aperçoit que ça mime, ça imite une intelligence qui aurait disparu. Vous comprenez ce que je veux dire? Le monde de l'insecte, le monde.